C'est un paramètre central autant de la performance que de la longévité et de la santé. Le VO2 max, c'est un prérequis à la performance en endurance. Tu as un VO2 qui est élevé, moins tu as de risque de mourir de toute cause mortalité. Parce que le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait ou que tu n'as pas fait depuis un moment. Ceux qui te diront que les entraînements de VO2 max, le fameux 4x4 norvégien, qui est soi-disant le gold standard, et dire que c'est cet entraînement-là qu'il faut faire parce que ça apporte les meilleures adaptations, à mon avis, les gens qui préconisent ça, ils f***. Le travail à VO2 permet de développer le VO2 max. Le travail en sprint permet de développer le VO2 max. Le travail en dessous du deuxième seuil permet de développer le VO2 max. Le travail à basse intensité permet de développer le VO2 max.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026.
Et bienvenue sur l'épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler VO2 max, on va parler puissance cardiaque, endurance fondamentale. On va aller chercher le cœur. Et on a l'invité par excellence qui a fait déjà deux masterclass sur l'endurance et sur les fractionnés, les entraînements par intermittence. Donc, on reçoit Sean Seal. Bienvenue.
Merci à toi. Comment tu vas?
Eh ben, ça va très, très bien. En off, on se disait qu'on allait super bien aujourd'hui, donc on va continuer la journée. On va définir aujourd'hui la VO2 max. C'est vraiment une valeur très liée à la performance, à la longévité, à la santé. On va essayer de débriefer ça aujourd'hui parce qu'on entend un petit peu tout. Toi, comment tu peux définir simplement ce que c'est la VO2 max?
Alors, sur le papier, c'est le volume d'oxygène maximal que ton corps peut consommer sur un effort intense. Et donc, typiquement, si on veut être pointilleux, il faudrait dire le VO2 max, parce que c'est le volume maximal d'oxygène. Je dis tout le temps là, et je continue à dire là, parce que pour moi, je crois que je l'ai appris comme ça, et ça me va bien. Et des fois, j'oublie qu'il faut dire le, et des fois, je dis le, puis après, je reviens sur là, parce que je me dis non, je m'en fous. Voilà, donc c'est la consommation maximale d'oxygène. C'est ce que ton corps, il peut utiliser comme oxygène, donc c'est un paramètre central autant de la performance que de la longévité et de la santé. Hein, si on parle performance en endurance, ce qui se dit, c'est que le VO2 max, c'est un prérequis à la performance en endurance. Ça veut dire que si tu as un tout petit VO2 max, ça ne va pas le faire pour performer contre les meilleurs. Mais à l'inverse, si tu as un grand VO2 max, ça ne veut pas forcément dire que tu vas être le meilleur. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte quand on parle performance. Et on l'entend beaucoup ces jours-ci, simplement parce que c'est clairement quelque chose qui est lié à la longévité aussi. Donc, c'est un indicateur intéressant et il y a des datas assez cool qui montrent que, en gros, plus tu as un VO2 qui est élevé et moins tu as de risque de mourir de toute cause mortalité. C'est un petit peu le même refrain qu'avec le nombre de pas par jour que tu fais. Plus tu en fais, mieux c'est pour toi et plus ton VO2 max est important et mieux ce sera pour ta santé et pour ta longévité. Donc voilà un petit peu l'unité en tant que telle. Techniquement, ça se mesure. Ça se mesure via des échanges gazeux. Donc, il faut un masque, il faut du matos qui coûte une blinde, si tu veux vraiment le mesurer. Et ça va s'exprimer soit en unité relative, c'est celle qu'on voit le plus souvent, donc relative au poids de corps. C'est-à-dire qu'on parle de millilitres d'oxygène par kilo par minute d'effort. Et on peut l'exprimer de manière absolue aussi, c'est-à-dire en faisant abstraction du poids de corps. Et là, on est sur des millilitres ou des litres par minute. Donc voilà un petit peu le tour du terme VO2 max.
Donc cette VO2 max, qu'elle soit masculine ou féminine, c'est un volume d'oxygène Et moi, ma compréhension, c'était au tout début, tu vois, que c'était vraiment axé sur notre ventilation. Et finalement, c'est il y a plusieurs facteurs qui vont augmenter notre VO2 max. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu le cheminement de ce volume d'oxygène?
Donc, tu as bien raison, il y a la ventilation qui joue un rôle là-dedans, mais il faut considérer, le parcours de l'oxygène. Donc, le cheminement de l'oxygène depuis notre environnement, l'air qu'on respire, et là où est utilisé l'oxygène, qui est concrètement à l'intérieur des mitochondries. Donc, ces fameuses mitochondries dont vous avez longuement parlé avec l'autre Vincent, entre autres. Ces mitochondries qui sont au cœur de nos cellules, qui font partie de quasiment toutes les cellules du corps. Il y a 2-3 types de cellules qui n'en ont pas, mais en gros, tu peux dire qu'il y en a partout. Et en gros, tu peux dire que plus il y en a, mieux c'est. Parce que c'est littéralement la centrale énergétique du corps et de la cellule. C'est ça qui fait que les choses fonctionnent bien. On tisse des liens maintenant entre les mitochondries et ton système immunitaire. Il y a énormément, comme l'a déjà dit Vincent Foulonneau, que je salue d'ailleurs au passage, qu'il le décrit bien dans les facteurs du vieillissement. Je crois qu'il y en a 8 qui sont influencés par les mitochondries. Donc, d'une manière ou d'une autre, plus tu en as, mieux c'est. Plus tu en as et mieux tu peux utiliser l'oxygène, parce que c'est à l'intérieur de ces mitochondries qu'on utilise l'oxygène. Donc, maintenant, on a le départ et l'arrivée, si tu veux, le départ étant l'air ambiant. On peut même venir un pas en arrière et se dire d'où vient l'oxygène. L'oxygène vient des plantes, exactement. Ces petits trucs verts qu'on a autour de nous, autant de ton côté que du mien, qui littéralement prennent l'énergie du soleil et qui vont convertir cette énergie avec du CO2. Elles vont utiliser le CO2 qui se trouve, que nous on expire techniquement, donc c'est une boucle. Et elles vont nous faire des sucres et elles vont nous faire de l'oxygène. Et cet oxygène, on va donc l'inspirer, ça c'est la première étape, via le système respiratoire ou ventilatoire. Cet oxygène, il va passer donc dans les poumons, il va ensuite se diffuser via les alvéoles qui sont des toutes petites pochettes qui sont sur toute la surface de nos poumons. L'oxygène va se diffuser vers le sang et plus spécifiquement dans le sang on a des globules rouges et dans les globules rouges on a une protéine qui s'appelle l'hémoglobine qui est un petit peu le taxi, c'est le transporteur, c'est celui qui va venir chercher l'oxygène dans les capillaires pulmonaires et qui va les transporter ensuite dans le sang, transporter donc dans le système cardiovasculaire, le cœur qui joue un rôle central littéralement dans le VO2 max, du fait que c'est la pompe. Et c'est souvent dit que c'est le facteur cardiaque qui est le plus important dans la consommation maximale d'oxygène. En gros, ça va être le plus gros facteur limitant, si on veut parler comme ça. Et plus ton cœur est gros et plus ton cœur peut battre de sang par minute, et plus ça va influencer positivement le VO2 max.
Ouais, parce que c'est le moteur du coup de tout ce circuit.
Parce qu'au final, c'est ce qui va déterminer combien tu peux faire passer d'oxygène par minute dans ta circulation. Et ce qui passe par minute, c'est ce que tu peux extraire ensuite au niveau musculaire. Hein, donc, on a parlé de l'environnement, on a parlé des poumons, on a parlé de la pompe. On peut parler du système vasculaire qui est important aussi. Donc, le fait que littéralement, tes artères, elles vont venir s'ouvrir, s'élargir. C'est une des adaptations à l'endurance, on appelle ça la vasodilatation métabolique. Et c'est comme si l'autoroute devenait plus grande. Tu passais d'une autoroute à 2 voies, une autoroute à 4 voies. Du coup, tu peux passer plus de taxis à la fois, donc plus de passagers, plus d'oxygène. Et ensuite, on a l'arrivée de l'oxygène vers les fibres musculaires. Ça se passe dans ce qu'on appelle les capillaires musculaires, qui sont un petit peu la place de parking, si tu veux, où va s'arrêter le taxi pour décharger ses passagers, décharger l'oxygène qui passe ensuite à l'intérieur de la fibre musculaire. Et là, on a le petit cousin de l'hémoglobine qui est la myoglobine. Myo pour muscle, hémo pour M, donc le sang. Et la myoglobine qui donne d'ailleurs cette couleur rouge qu'on connaît aux fibres lentes, hein, parce qu'elles ont une haute teneur en myoglobine. Et cette myoglobine qui va stocker / transporter l'oxygène dans la cellule, ça va passer dans la mitochondrie et ensuite, on a tout le processus qui se passe au niveau du système de transport des électrons, qu'on appelle aussi la chaîne de transport des électrons, qu'on a vu en physiologie à l'école et dans les bouquins. Et concrètement, l'oxygène est utilisé au complexe 4, On a 5 complexes de protéines qui sont sur cette chaîne de transport. Et le complexe 4, c'est là où l'oxygène vient littéralement attraper des électrons. Hein, c'est un accepteur d'électrons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise le terme oxydé. Oxydé, ça veut dire venir attraper un électron. Et c'est ce qui se passe concrètement, ce système de transport d'électrons. C'est l'oxygène qui vient tirer les électrons. Et ce flux d'électrons, il faut le voir un peu comme un flux d'eau qui passe dans une rivière. C'est ça qui va donner l'énergie, comme l'eau qui donne l'énergie à un moulin. C'est exactement ça. C'est un moulin, en fait. À l'intérieur de la mitochondrie, ça se passe comme dans un moulin. Et ça te permet de concrètement générer l'ATP, recycler l'ATP dont on a besoin pour fonctionner. Et il s'avère que, contrairement à ce qu'on pensait encore récemment, cette fameuse filière aérobie dont on parle ici, hein, aérobie donc en lien avec l'oxygène qui est dans les mitochondries, c'est quelque chose sur lequel reposent toutes les autres filières énergétiques. C'est-à-dire que on parle de la phosphocréatine comme étant la première filière qu'on va utiliser, mais elle opère pas en isolation, cette filière. C'est-à-dire que déjà pour la recomposer, pour refaire ton stock de phosphocréatine, il faut passer par la case mitochondrie, il faut passer par la case oxygène. Donc en gros, la phosphocréatine que tu as là en réserve dans tes fibres musculaires, dans tes cellules, avant même de l'utiliser, c'est déjà l'oxygène qui a y contribué. Et ils ont fait des études super intéressantes où si tu coupes en gros le flux sanguin, eh ben, la phosphocréatine ne se resynthétise pas. Donc littéralement, la phosphocréatine qu'on appelait un temps anaérobie alactique, mais à mon avis, ce n'est pas pertinent d'isoler les filières parce qu'elles fonctionnent toutes en fait ensemble. Elle est dépendante de l'oxygène. Et la glycolyse, pareil, le produit de fin de la glycolyse, ce fameux lactate dont on parle souvent, ben lui, il va être recyclé dans la mitochondrie. Donc en gros, tout tourne autour de la mitochondrie, tout tourne autour de cette utilisation d'oxygène, si on revient au thème central. Et donc, on a le cheminement du début à la fin de cet oxygène.
Voilà, je sors d'un diplôme en micronutrition.
Ouais.
Et donc, c'est professeur Castronovo qui place la médecine mitochondriale comme la médecine de demain.
C'est la médecine d'aujourd'hui et d'hier.
Ouais, comme la mère de toutes les médecines, parce que cette mitochondrie va rassembler un ensemble de processus, surtout liés au vieillissement. Tu vois, tous les processus de vieillissement sont liés à ça. Et là, on prenait en fait le spectre de la VO2 max, où on est parti de la ventilation, de l'échange gazeux poumon-sang, de la circulation, l'échange entre muscles et cellules. Et puis, plus on rentre, plus on peut aller voir la mitochondrie qui a un impact. Mais on pourrait aussi voir l'ensemble de nos micronutriments, la façon dont on gère notre stress oxydatif. Enfin, tout ça, c'est très, très complexe. Et la transition est toute faite sur quelle est notre part de génétique par rapport à cette VO2 max.
Ça, c'est une très bonne question. J'ai pas la réponse sur quelle proportion de VO2 est influencée par sa génétique. Ce que je sais, c'est que tes mitochondries, tu les hérites. En gros, ton matériel génétique mitochondrial, parce qu'il y a l'ADN cellulaire et il y a l'ADN mitochondrial qui est distinct de l'ADN de tes cellules. Et il semblerait, de ce que je comprends, en gros, il y a cette scission, si tu veux, ou cette différence qui reste très, très distincte entre l'ADN cellulaire et l'ADN mitochondrial. Parce qu'on le sait, les mutations génétiques, c'est quelque chose qui s'opère de manière assez naturelle. Mais pour le bon fonctionnement des mitochondries, et notamment de ce système de transport des électrons, de ce que je comprends aujourd'hui, on est à des niveaux de détail qui relèvent de la physique quantique. Donc, on a un fonctionnement interne à la mitochondrie qui est vraiment d'une précision quantique, c'est-à-dire que tu as un truc qui bouge à gauche ou à droite, ça ne fonctionne plus. Et si ton système de transport d'électrons ne fonctionne plus, si tu as une mutation là-dedans, eh ben, ça fout tout en l'air et ta cellule, elle va forcément plus fonctionner.
De ce que j'ai compris, alors, c'est sûr que ce que tu dis, il y a vraiment du vrai, parce qu'on est déjà dans un milieu qui est extrêmement dangereux. On imagine qu'il y a la France, et dans la France, il y a une centrale nucléaire. Et à l'intérieur de la centrale nucléaire, c'est très dangereux. Donc, il y a tout un ensemble de protection. Moi, de ce que j'ai compris de la différence entre l'ADN cellulaire et l'ADN mitochondrial, peut-être que en commentaire, si vous voulez mettre un petit peu de nuance à tout ce qu'on dit, allez-y. Hein, c'est que le patrimoine génétique de la cellule est très protégé dans le noyau, tu vois, parce que ça va maintenir, on va limiter un maximum de mutations. Et par contre, les mutations vont être intéressantes au niveau mitochondrial parce que ça va pousser en fait la mitochondrie à devenir dysfonctionnelle. Et du coup, elle va être repérée par la cellule et ça va amener tout un système d'apoptose, tu vois, de mitophagie. Mmh. Et ça va aider en fait à ce qu'on garde des mitochondries qui soient fonctionnelles. C'est pour ça que l'ADN mitochondrial serait peu protégé pour, au contraire, dès qu'il y a un changement, bam, la mitochondrie, en gros, elle se fait défoncer. Ouais. Et puis, on a du coup des mitochondries qui sont plutôt fonctionnelles. Voilà, c'est de ce que j'ai compris.
Et je pense que ça se recoupe avec un angle un petit peu différent, mais en gros, il n'y a aucune marge pour la mutation génétique au niveau des mitochondries. Ouais. Du fait de leur fonctionnement qui est tellement précis et nécessaire en fait pour son fonctionnement. Et pour aller un peu plus loin là-dessus, on hérite notre matériel génétique mitochondrial de notre mère. Donc déjà, il y a cette part-là à considérer. Si maman, elle faisait de l'endurance, si maman, elle était en bonne santé de manière générale, il y a de grandes chances qu'on hérite de ce matériel génétique et ça va jouer un rôle forcément. Après, on sait que il y a toujours le fameux débat en anglais nurture versus nature, donc l'expression du génome versus le génome en lui-même, génétique, épigénétique, et forcément les deux jouent. Mais de ce que je comprends, il y a une telle plasticité du corps humain que même si tu commences avec, disons, tu prends l'analogie du poker, je veux dire, tu peux gagner une main au poker même avec un 7 et un 2 au départ. Même si c'est la pire des mains au départ que tu peux avoir au poker, tu peux quand même gagner une partie, tu peux quand même gagner beaucoup d'argent parce qu'au final, c'est ce que tu en fais. Et à mon avis, c'est pareil pour la génétique. C'est intéressant de se poser la question d'où ça vient et quelle proportion, etc. Mais je pense que ce que j'aime pas avec cet axe de réflexion, c'est que ça laisse la porte ouverte à « ouais, mais moi, j'ai pas eu un bon matériel génétique, donc ça justifie ensuite soit une absence de pratique, soit une absence de travail ». Parce que tout le monde peut en fait s'améliorer et dans des proportions qui sont gigantesques. On le voit, je veux dire, il y a des histoires de transformation, des gens qui étaient obèses, qui étaient obèses de 100 kilos, de 150 kilos et qui ont perdu le poids et qui maintenant font des marathons, qui maintenant sont en bonne santé. On a tous ça en nous, on est tous capables de le faire. Après, la vie n'est pas facile et il y a plein d'autres montagnes à surmonter, mais je pense qu'il faut plutôt plutôt s'attarder sur la plasticité de nos systèmes, de notre physiologie et le fait que tout est changeable, tout est influençable par l'entraînement et c'est des choses qu'il faut simplement comprendre et ensuite acter.
Mais bon, c'est vrai qu'en t'écoutant et puis le sujet, on entend Vincent Foulonneau, hein, qu'on salue encore, hein, qui est venu sur 1000%, qui nous a fait des masterclass. Enfin voilà, allez écouter ces épisodes, c'est vraiment super intéressant sur la mitochondrie. La dernière fois qu'on l'a reçu, c'était vraiment sur l'enfant à 1000%. En fait, des parents, la conception, la grossesse, tu vois, toutes ces étapes qui font que on va donner un héritage à nos enfants, c'était vraiment waouh, incroyable. Et donc on revenait sur l'héritage de nos mitochondries par la mère, parce que les spermatozoïdes, les mitochondries vont être principalement dans le flagelle, donc ça va être le moteur. Et comme dans tout moteur, il y a beaucoup de déchets, c'est comme si c'était le pot d'échappement de notre voiture. Et donc, quand le spermatozoïde va rentrer dans l'ovule, quand il va avoir cette fécondation, en fait, le flagelle, là où il y a toutes les mitochondries, vont être laissées en extracellulaire. Et donc, c'est pour ça que c'est principalement la mère qui donne ce poumon mitochondrial. Donc, c'était super intéressant. Allez écouter cet épisode. Suivez Vincent, suivez Sean. Enfin, voilà, c'est que des puits de savoir. On se régale. Et donc, tout ça, la transition est toute faite. C'est est-ce que c'est pas à l'enfance? On a vu que déjà, il y avait une interaction génétique de la mère, de ses capacités cardiovasculaires, de l'état de ses mitochondries. Mais est-ce que c'est pas à l'enfance? On va donner vraiment un héritage, on va venir modeler, tu vois, tu parlais de venir donner une impulsion environnementale. Est-ce que c'est pas très tôt qu'on peut donner ça?
Oui, et surtout plus quand on est jeune que quand on est plus âgé, du fait qu'on est plus plastique quand on est jeune que quand on est âgé. Donc, il y a une baisse de plasticité du corps et des systèmes physiologiques au fur et à mesure du temps, simplement. Et donc, oui, tu peux capitaliser sur le fait que tu pourras plus facilement t'adapter, tu pourras plus facilement développer certaines qualités quand tu es jeune que quand tu es plus vieux. Après, faut on va dire, pondérer cette idée parce que on entend des choses comme tu peux pas développer la vitesse quand tu as plus de 20 ans, il faut faire quand tu es jeune, si tu n'as pas fait quand tu étais jeune, maintenant ça ne sert plus à rien. J'ai en tête encore malheureusement même des professionnels de la santé, des médecins que j'ai entendu dire, on m'a relaté les faits forcément, mais quelqu'un qui a été faire un test d'effort en laboratoire, qui a 40 ans, qui avait 42 VO2 max, donc 40 millilitres par kilo par minute, et le docteur lui a littéralement dit tu peux pas changer ta VO2, c'est génétique, et de toute façon il fallait le faire quand tu étais gamin si tu voulais changer quelque chose, donc voilà, ça sert plus à rien quoi. Arrête de t'entraîner ou en tout cas il n'y avait pas d'espoir d'améliorer ce paramètre, alors qu'on sait que c'est complètement faux. Ouais, mange les chiffres, regarde la télé, ça passera tout seul. Mais donc c'est triste parce qu'on peut changer même quand on est plus âgé. Je veux dire, tu peux augmenter ta VO2 max quand tu as 60 ans, quand tu as 70 ans. Il y a toujours ce potentiel de développement, mais il y a un plus grand potentiel quand tu es jeune. Et plus tu commences tôt, et plus ensuite tu as de possibilités pour le développer aussi plus tard. Et à mon avis, aujourd'hui, c'est d'autant plus important, et je pense que vous en avez parlé longuement avec Vincent. J'avais écouté 2-3 extraits de cet épisode sur les enfants qui étaient absolument géniaux. J'avais beaucoup aimé notamment la partie sur le rôle, notamment au niveau émotionnel et social, des repas et de la qualité du repas avec ses enfants, de comment tu manges, comment tu t'assieds à table, comment tu ta relation à la nourriture, pour moi, qui sont des concepts qui sont fondamentaux et qui sont tellement importants.
C'était globalement dans l'exemple, tu vois.
Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, par rapport à cette idée de le développer tôt, c'était fait un petit peu naturellement jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, du fait que les gamins, ils passaient du temps dehors, ils allaient jouer, tu rentrais de l'école, tu posais ton sac, tu allais courir avec les potes. Mais aujourd'hui, c'est les écrans, c'est les téléphones, c'est assis sur une chaise. Et au final, ça a un impact sur le VO2 max, entre autres, hein, entre beaucoup d'autres choses, mais le manque d'activité physique, c'est un fléau. Le sédentarisme, à mon avis, c'est le plus grand fléau de notre ère. Et malheureusement, on ne le qualifie pas de la sorte. On se concentre sur d'autres trucs qui sont un petit peu de l'ordre de réarranger les chaises sur le pont du Titanic, comme on dit. Donc, ça change pas grand-chose, en fait. Là où il faut vraiment se concentrer, c'est le fait d'être actif, c'est vivre une vie active. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Insta ce matin qui parlait exactement de ça, dans le sens où on entend maintenant 10 minutes d'activité à VO2 max, c'est plus fort et plus important et plus puissant que 10 000 pas par jour. Mais ce n'est même pas la même conversation, en fait. Parce que la différence entre 10 minutes d'activité intense et 1 heure à 1 heure et demie d'activité physique légère par jour, ce n'est même pas la même conversation. Et on manque déjà tellement d'activité physique dans nos vies, sans parler de nous en tant qu'adultes, mais nos enfants, ils ont besoin de s'exprimer physiquement. C'est comme ça qu'ils appréhendent le monde, c'est comme ça qu'ils développent leur appréhension aussi de leur environnement. Et c'est des choses que nous, en tant que parents, on se doit de renforcer. Donc moi, j'ai de la chance, on a déménagé, comme je t'en parlais avant, on est maintenant en France. Le petit, il va dans un collège où ils ont une section vélo, donc il fait... En gros, il fait plus de sport que moi. Il fait 10 heures de sport par semaine, le gamin, à l'école et avec l'AS le mercredi après-midi, ce qui est génial. Ça veut dire qu'il est bien concentré quand il est en classe, il dort bien le soir, il a très, très faim quand il rentre de l'école.
Tout va bien.
Je veux dire, tout va bien. Mais ça, je le souhaite à tous les enfants.
Tu mets un petit peu d'amour dans tout ça et voilà, c'est fini.
Un petit peu d'amour dans tout ça, des repas passés en famille sans les écrans et avec des conversations positives. Et la vie, elle est assez simple, tu vois. Mais ça veut dire aussi que si tu n'es pas dans un contexte comme ça au niveau de l'école, ça veut dire qu'il faut, il faut inscrire ton gamin à des sports, ou alors il faut aller faire du sport avec ton gamin après l'école. Il faut sortir faire une rando le week-end, sortir faire un tour à vélo. Quand tu vas marcher le chien le samedi matin, le gamin il vient avec toi parce qu'il faut qu'il bouge. Et pour moi, c'est ça vraiment le point central. C'est pas maximiser le développement de la VO2 chez les enfants, c'est activité physique. Activité physique, activité physique, l'antisédentarité. Et à mon avis, c'est ça qui manque aujourd'hui.
Mais tu vois, ça c'est, tu disais là, ce que tu avais vu sur Insta, mais en fait, c'est, on cherche des shortcuts parce que le mal peut-être du siècle, tu dis, c'est la sédentarité, mais c'est la notion de temps, tu vois. il y a intrinsèquement, parfois, on n'a pas le temps, mais aussi, on a l'impression de pas avoir le temps parce que, on n'est pas pleinement concentré, l'attention, on a du mal à la tenir. Et donc, ça partage un petit peu cette sensation de courir après le temps. Et c'est vraiment ce que je partage là. Je fais mes accompagnements, tu vois, en longévité. Et vraiment, c'est vraiment la question centrale. Comment tu peux faire mieux manger une personne, mieux bouger, mieux dormir, si déjà il n'y a pas le temps, tu vois. Donc déjà, tu vois, cette question, elle est centrale dans tout ça. Et pour refaire une transition sur le timing de nos enfants, je t'ai écouté sur un podcast et la réflexion était super. C'est que on dit, le cardiovasculaire, il n'est pas encore mature chez les jeunes enfants. Et donc vraiment, tout ce qui va être entraînement cardiovasculaire, ça va être plutôt à l'adolescence. Et on retrouve beaucoup d'évolutions, beaucoup d'études sur les bénéfices du cardiovasculaire à l'adolescence. Mais tu dis, c'est le moment où ils s'entraînent. Avant, ils ne s'entraînent pas. Donc, on a moins de valeur pour comparer.
Mmh. Alors, il y a ça. Et je suis convaincu quand même que si tu es très actif entre ta naissance et tes 14 ans, tu auras un bien plus grand potentiel de développement ensuite. Et que quelqu'un qui est assis sur une chaise depuis qu'il est gamin et dans une poussette et avec un écran dans les mains et qui sort jamais, qui est allergique à l'activité physique, et forcément, ça présage de gros problèmes, à mon avis, dès l'adolescence, voire même plus tôt, malheureusement. Et forcément, il y a plein d'autres choses qui jouent. Il y a le stress, il y a la nutrition, il y a la qualité du sommeil, il y a les écrans, la qualité de la lumière aussi à laquelle on est confronté au quotidien. Toutes ces choses-là jouent énormément. Mais à mon avis, l'activité physique, c'est le truc sur lequel t'as le plus gros levier, en fait. T'as le plus gros levier pour stimuler ton corps, pour faire en sorte qu'il s'adapte, pour faire en sorte qu'il change vers le mieux et qui te permet de construire littéralement ton infrastructure interne pour avoir une meilleure vie, pour vivre plus longtemps, pour vivre une vie qui est plus qualitative, qui est plus riche, qui est plus libre aussi. Je veux dire, c'est tellement important.
Ouais. Et le bras de levier, tu vois, si on prend le génétique comme la base, notre bibliothèque de base, c'est peut-être à l'enfance, vraiment très tôt, que le bras de levier est vraiment très important pour créer des adaptations. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette maturité du système cardiovasculaire et cette VO2 max? Est-ce que tu peux nous faire un lien par rapport à l'âge?
Je saurais pas te dire exactement. Sur le point de la maturité du système cardiovasculaire, à mon sens, j'ai peut-être tort, hein, mais à mon sens, la conversation, elle est plus importante autour de la maturité de l'enfant et du type d'activité qu'on va leur proposer ou qu'ils vont faire de par cette maturité, autant physique qu'intellectuelle, qu'émotionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, il n'y a pas matière à planifier des séances de fractionné de VO2 à un gamin de 6 ans ou un gamin de 8 ans. Parce que c'est pas le mindset, c'est pas là-dessus qu'on doit se concentrer, c'est pas le bon objectif. Le bon objectif pour ces enfants-là, c'est prendre du plaisir à l'activité physique. Pour moi, c'est le maître mot, c'est le jeu, c'est développer des compétences motrices, c'est explorer plein d'activités différentes, c'est sauter depuis des trucs hauts et pas avoir mal parce que tu l'as fait depuis tout petit et ça va te servir plus tard quand tu fais de la pliométrie. Je veux dire, les gamins, ils font de la pliométrie à la vacation ski depuis qu'ils sont tout petits. Ils sautent depuis un muret, ils sautent depuis le truc à la place de jeu. Sauf que nous, on leur dit non, fais pas ça, tu vas te faire mal, arrête, c'est dangereux. Non, faut les laisser faire. Et ils vont se faire mal une fois, ils vont apprendre et après, ils sauteront mieux ou ils sauteront pas de si haut. Mais on laisse plus les enfants s'exprimer dehors et après on veut leur mettre des séances de VO2 max parce qu'on a lu que c'était bon pour la longévité et je caricature forcément, mais à mon avis c'est vraiment important de remettre l'église au milieu du village sur ce point là et vraiment de se dire, les enfants quand ils sont jeunes, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils prennent du plaisir, parce que l'objectif avec eux, il est dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient envie de s'entraîner et d'être actifs physiquement pour le reste de leur vie. Ça devrait être, à mon avis, le seul objectif, ou en tout cas l'objectif principal d'une quelconque activité physique chez les enfants, quand on commence depuis le plus jeune âge, jusqu'à l'adolescence, où on peut commencer à parler d'entraînement structuré, où forcément, j'ai rien contre la compétition, je pense que la compétition, c'est un super outil de développement, mais il faut aussi que ce soit pondéré. Je veux dire, j'ai des histoires dans le vélo où les gamins ils se font gueuler dessus par leurs parents à la ligne d'arrivée. Le gamin, il a 12 ans et parce qu'il n'a pas fini là où il devait, il se fait gueuler dessus par les parents. Il se fait laisser en plan par ses parents. Ses parents partent en voiture. Il doit rentrer en vélo après sa course. Je veux dire, c'est une aberration. C'est de l'abus de la
jeunesse. Il a déçu ses parents.
Non, mais t'imagines un petit peu le truc? Et c'est un gamin. Et ça, c'est le genre de gamin. Et ben, à la première opportunité, il va poser le vélo et il va plus jamais le toucher parce que tu l'as dégoûté. Et ça, c'est un crime, à mon avis. Et il faut vraiment penser différemment quand on a des jeunes enfants. Il faut qu'ils aiment être actifs physiquement. Donc, je ne saurais pas te répondre d'un point de vue de la maturité du système cardiovasculaire. Je n'ai pas la réponse. Mais à mon avis, la conversation, elle est plus sur on s'en tamponne le coquillard parce que ce qu'il faut, c'est qu'il soit actif physiquement et qu'il prenne du plaisir pour qu'il le fasse pour toujours. C'est ça la vraie discussion, à mon avis.
On va faire une petite coupe. On va recentrer un petit peu le sujet sur la VO2 max. Désolé, mais sur 1000%, on adore les enfants, on adore tous les enfants. Voilà, on pense que en fait, on comble un manque de connaissances qu'on aurait dû donner plus jeune, tu vois. Peut-être un jour, on créera l'école 1000% si tu veux venir, Sean.
Mais tu me diras quand.
Si on veut de la performance, parce que on a vu que là, c'était de la santé, c'était un vrai marqueur de santé. Si on veut de la performance, comme tu disais, c'est en fait le minimum. Si on veut une VO2 max, c'est ce qui nous permet de toucher un niveau élite. Et après, il y a d'autres facteurs qui se mettent en place.
Ouais, c'est ça. Donc, VO2, le prérequis. Parce que simplement, on utilise toujours cette analogie de la taille du moteur. C'est la taille du moteur. Donc forcément, si tu veux faire la course avec des gens qui vont très, très vite, il faut un gros moteur. Si tu as un tout petit moteur, ça ne va simplement pas suffire, peu importe les autres qualités que tu apportes. Et donc, si on parle performance, oui, il faut développer le ou la VO2 max. C'est indispensable. Et ça peut se faire par plusieurs moyens différents, contrairement à ce qu'on veut nous dire, encore une fois, avec ces conversations très...
Moi, j'ai raison, toi, t'as tort.
Ouais, ou très noir-blanc, catégorique, il faut faire ça plutôt que ça, parce que les études montrent qu'il y a un scientisme latent qui me dérange, qui me tend. Il n'y a pas grand-chose qui me tend, mais ça me tend. Quand il y a des experts...
Je te vois, là, t'es tendu, tu sais.
Tu le sens? Je le communique, mais et je te dis, il n'y a pas grand-chose qui me tend, mais ça me tend quand il y a des personnes qui ont des plateformes avec littéralement des millions de personnes qui les écoutent et qui pensent que dire que parce qu'une étude a dit que, ou 10 études ont dit que, ou parce qu'une méta-analyse a dit que tel entraînement était plus puissant que tel autre entraînement, qu'il fallait plutôt faire celui-là plutôt que celui-là, c'est pas le vrai débat, en fait. Le vrai débat, c'est pas dans quel est le meilleur entraînement pour développer le VO2 max. Le vrai débat, c'est comment trouver le bon équilibre des différents types d'entraînement qu'il nous faut pour pouvoir continuer à développer son VO2 max dans la perpétuité. C'est ça, en fait, la vraie question.
Vas-y, let's go. Hein. Est-ce que c'est pas historiquement les entraînements à VMA avaient cette connotation d'adaptation de notre VO2 max? Est-ce qu'on peut avoir une vision plus large? Quel serait l'entraînement parfait pour faire progresser notre VO2 max?
Alors, ce qui est vrai, c'est que l'entraînement à haute intensité, il est très, très puissant de par son intensité, de par le fait qu'il va toucher à tous les systèmes, de par le fait que tu vas recruter une grande quantité de masse musculaire pour effectuer un effort à haute intensité. Et donc, ça va avoir un effet disproportionné, au sens positif, surtout pour les débutants, ou pour les personnes qui n'en ont pas fait depuis un petit moment. Hein, tu le vois, par exemple, il y avait un papier intéressant qui a passé en revue plein de ce qu'ils appellent des distributions d'intensité. Une distribution d'intensité, c'est comment tu répartis tes différentes séances dans la semaine d'un point de vue de l'intensité. Donc, est-ce que tu as... on peut penser au fameux 80-20, qui est un autre raccourci qu'on aime bien utiliser. Donc, il faut faire 80% d'entraînement à basse intensité et 20% d'entraînement à haute intensité. Ça, ce serait sur le papier, c'est l'idée. Et en fait, ils ont regardé différentes distributions d'intensité comme celle-ci et ils ont essayé de regarder quel entraînement avait le meilleur effet selon le type de distribution que tu avais au préalable. Donc, concrètement, si tu fais du 80-20 et que ça fait quelques mois que tu en fais, voire quelques années parce que tu as vu que c'était la meilleure distribution, donc tu n'as fait que ça, du fameux polarisé, eh bien, il s'avère que le meilleur type d'entraînement pour continuer à progresser, c'est une distribution dite pyramidale, où en fait, on va remplacer la haute intensité par de la moyenne intensité. On va garder la fondation de fondamentale, de basse intensité, mais on va switcher en gros le type d'intensité qu'on fait. Pourquoi? Parce que le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait ou que tu n'as pas fait depuis un moment, parce que c'est celui auquel ton corps sera le plus sensible et donc il va mieux s'adapter. Ces fameux progrès de débutant, ils s'appliquent à tous les niveaux en fait. Tout ce qui est nouveau pour tu peux être un compétiteur élite en sport d'endurance, si tu n'as jamais fait d'entraînement en force, de renforcement, eh ben, tu vas avoir des progrès de débutant en force parce que c'est un stimulus qui est nouveau et donc ton corps il s'adapte plus rapidement et plus facilement lorsque quelque chose est nouveau. Et quand ça fait 5, 6, 10 ans que tu t'entraînes à faire un truc uniquement, eh ben, tu sais que ce truc, ça prend beaucoup plus d'efforts pour arriver à le faire progresser. Donc, c'est la même idée. Et donc, en gros, le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait ou celui que tu n'as pas fait depuis un moment. Et donc, pour répondre à ta question, oui, VO2 max, oui, VMA, ça a des effets qui sont très, très importants. Mais ce qu'on oublie tout le temps de mentionner dans ces discussions, c'est le coût associé à ce genre d'entraînement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un entraînement à VMA, c'est cool, mais concrètement, ça fait mal. C'est pas facile. Hein, et je suis pas là pour dire qu'il faut pas se faire mal à l'entraînement. Je me suis fait mal hier sur le ski erg. Il faut y passer. Si tu veux performer, t'as pas le choix. Mais ce qu'il faut, par contre, c'est avoir un équilibre entre ce que tu fais et ce dont tu peux récupérer. Et ça, on n'en parle jamais dans les discussions de quel est le meilleur entraînement, parce que c'est toujours en isolation, sur le papier. Non, VMA, c'est mieux parce que tu as de meilleures adaptations sur 8 semaines. Non, le sprint interval training, c'est mieux parce que tu vois que la VMA augmente plus rapidement sur les deux premières semaines. Mais la réalité, c'est que ceux qui te diront que les entraînements de VO2 max, le fameux 4x4 norvégien, j'ai fait une vidéo sur ce sujet hier, qui est soi-disant le gold standard du travail à VO2. Donc, 4 minutes d'effort très, très intense et 3 minutes de repos et tu répètes ça 4 fois. Donc, tu as 16 minutes de travail à VO2. Donc, c'est vraiment pas facile comme séance. C'est des intervalles qui sont longs en plus. Et dire que c'est cet entraînement-là qu'il faut faire parce que ça apporte les meilleures adaptations, à mon avis, les gens qui préconisent ça, ils ne font pas cet entraînement 3 fois par semaine. Ou s'ils le font 3 fois par semaine, ils viennent de commencer. Mais je te garantis que tu ne peux pas faire ça 2 ou 3 fois par semaine uniquement en perpétuité et continuer à fonctionner et à pas te flinguer à un moment donné, quoi.
Si t'as rien à faire à part ça, si c'est vraiment tu fais que dormir, ouais. Et que derrière tu te gères. Moi, ma question, tu vois, c'est de ce que j'ai compris, c'est quand même le temps passé à VO2 max va me permettre de développer ma VO2 max. Est-ce que tu pourrais valider ou invalider et en même temps ouvrir un petit peu la réponse sur d'autres entraînements où on n'est pas à VO2 max, mais il y a quand même des intérêts. Je ne sais pas si tu vois un peu où je veux t'amener.
Ouais, c'est clair.
T'amener de partout, là.
C'est clair. Alors, c'est ce qui semble ressortir. Et mon ami Quentin dirait que c'est un lien causal. Et corrélationnel et pas forcément causal. C'est-à-dire que juste parce que tu montres que sur les études ou sur les entraînements où tu passes plus de temps proche de VO2, tu as une meilleure amélioration du VO2 max, ça ne veut pas forcément dire que c'est à cause de ça. C'est lié, forcément, mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça. Donc ça, c'est la première pièce du puzzle. Ensuite, la réalité, c'est que si ça, c'était le facteur déterminant, eh ben, tu regarderais les plans d'entraînement des pros en endurance et ils feraient tous le type d'entraînement qui te permet de passer plus de temps proche de VO2 max. Et la réalité, c'est que ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est qu'il faut... Et ça, il y avait un super papier, un commentaire plutôt de Steven Seiler, qui est un ponte de la recherche dans les sports d'endurance, et qui a dit en gros qu'on n'est pas sur une dynamique de maximisation de la VO2. On est sur une dynamique d'optimisation et une recherche d'équilibre sur les différentes intensités d'entraînement pour, oui, pouvoir faire des séances difficiles et de qualité fréquemment dans la semaine, dans le mois et dans l'année. Mais ce n'est pas comme s'il y avait une séance magique et il faut forcément suivre ce format pour arriver à ses fins. Et donc, pour enchaîner sur ta question, le travail à VO2 permet de développer le VO2 max. Le travail en sprint permet de développer le VO2 max. Le travail en dessous du deuxième seuil permet de développer le VO2 max. Le travail à basse intensité permet de développer le VO2 max aussi. Forcément, il y a certains niveaux d'entraînement ou certaines intensités qui vont le développer de manière directe et d'autres qui vont venir le développer de manière indirecte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on pense à la zone 2, à la basse intensité, eh ben, on ne va pas atteindre VO2 max, on va même être très très loin de VO2 max. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on va solliciter les structures, notamment les fibres lentes, qui ont une capacité d'adaptation justement aérobique qui est considérable. On va avoir des temps d'effort qui vont être bien plus long que ce qu'on va faire sur une séance de VO2 aussi, et quelque chose qui peut se faire de manière durable dans le temps et qu'on peut répéter plusieurs fois par semaine, sans souci au niveau de la récupération. Alors, tant que tu ne fais pas n'importe quoi, que forcément, si tu as fait 2 heures d'entraînement la semaine dernière et que tu te dis « je vais faire 2 sorties de 10 heures cette semaine », ça risque de coincer. Mais si c'est fait dans le contexte de la personne, la basse intensité, tu peux en bouffer. Et tant que c'est bien progressé, bien géré, ça aura assez peu d'influence sur ta récupération. Mais on va développer les fibres lentes, on va développer le cœur. Hein, le fait que tes muscles pompent, parce qu'on parle toujours du cœur comme étant la pompe, et c'est une des pompes, mais la pompe qui fait que le sang revient dans le cœur pour effectuer ce qui s'appelle la précharge du cœur, qui littéralement, de ce qu'on comprend, est le mécanisme qui hypertrophie le ventricule gauche du cœur et le ventricule droit aussi, et donc qui fait que ton cœur est plus grand et qu'il doit battre moins fréquemment pour bouger la même quantité de sang. Cette pompe-là, c'est le muscle. C'est la pompe musculaire, la contraction musculaire en elle-même qui vient comprimer les vaisseaux sanguins et qui pousse le sang pour qu'il revienne vers le cœur, parce que, à la différence des artères qui ont des muscles lisses, donc c'est les muscles littéralement dans les parois des vaisseaux qui vont venir se contracter pour pousser littéralement le sang pour l'amener vers tes muscles, dans les veines, il n'y en a pas. Dans les veines, il y a des petits portiques, donc le sang ne peut pas revenir en arrière, mais il n'y a pas de muscles. Et donc, c'est littéralement le muscle lui-même qui se contracte, le muscle squelettique qui se contracte lors de ton activité physique et qui va se contracter fréquemment, de manière répétée et de manière durable sur un effort de basse intensité, qui va faire revenir beaucoup de sang dans ton cœur, qui va précharger le cœur, qui va le remplir et qui va faire qu'on peut développer cette capacité cardiaque avec le temps.
On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Ok. Donc là, on parle de VO2 max. Mais on voit que le champ d'action est large, parce que là, il y a différents entraînements cardiovasculaires qui peuvent avoir un impact sur le VO2 max. Mais on parle de muscles, on parle de mitochondries, on parle de ventilation, on parle de perfusion musculaire, la capillarisation. Comment j'arrive à... Quels sont mes moyens d'action ? Est-ce que la musculation peut augmenter ma VO2 max ? Mon travail ventilatoire peut l'augmenter aussi ? Et quel est le rapport entre un vrai travail cardiovasculaire en entraînement cardiovasculaire et les autres types d'entraînement ?
On sait que le renforcement musculaire peut augmenter le VO2 max, notamment chez les gens qui ont un faible degré de développement de cette qualité. En gros, si tu ne fais pas d'endurance et que tu commences à faire du renfo, tu auras un impact positif sur ton VO2 max. Mais si tu as déjà un gros niveau en endurance, c'est certainement pas cette métrique-là qui va être influencée directement. Par contre, on sait que le renfo a un effet sur l'économie de mouvement et également sur le coût de l'effort à intensité sous-maximale en endurance. Donc, il y a un transfert. Il y a un transfert des qualités, mais c'est pas tu montes de 10% en force, tu montes de 10% en VO2 max. Il n'y a pas un transfert direct. De mémoire, je sais que j'avais écrit un article sur le blog il y a un petit moment, il semblerait que ce soit plus courant chez les personnes âgées et chez les jeunes de voir des augmentations de VO2 max avec un entraînement en renforcement musculaire. Donc ça, il y a un lien, mais encore une fois, il est pas direct et ça dépend de ton niveau de développement en endurance. C'est toujours ça le contexte. Pour ce qui est de la ventilation, on sait que l'entraînement ventilatoire améliore le VO2 max également. Et pour ça, on peut se référer au travail de Cyril Ricci, qui est un collègue et ami qui fait ça maintenant depuis plusieurs années avec les meilleurs cyclistes du monde, les meilleurs triathlètes du monde, et qui a commencé à publier récemment sur le sujet. Et on voit que l'entraînement ventilatoire permet de développer sa consommation maximale d'oxygène. À mon avis, c'est pas le premier levier à activer pour quelqu'un qui commence à s'entraîner. Parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus simples comme entraîne-toi régulièrement en endurance, fais-le sans t'arrêter pendant des années et déjà, on va vraiment bien, bien progresser. Et souvent, comme on en parlait tout à l'heure, on cherche des raccourcis. On cherche le truc magique qui va nous faire exploser. On cherche la pépite. Alors que, en fait, la réponse, elle est souvent dans les trucs les plus chiants. Ça veut dire qu'il faut se coucher à une heure raisonnable. Il faut bien dormir. Il faut idéalement te lever sans réveil si tu y arrives. Il faut gérer son stress. Il faut manger en famille. Il faut être actif physiquement. Il faut faire du renfort. Il faut faire de l'endurance. Il faut te challenger en faisant des choses pour lesquelles tu n'es pas fait ou que tu n'aimes pas forcément faire. Et au final, la réponse, elle est là. Mais ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. Parce qu'encore une fois, c'est plus simple de penser en raccourci, c'est plus simple de penser en pilule magique, c'est plus simple de penser en 10 minutes d'activité, c'est plus puissant que une heure et demie d'activité physique douce dans la journée. Mais voilà, il faut recentrer un petit peu le débat.
Et on avait reçu Nicolas Hoth qui était le premier à dire que les adaptations d'endurance prennent du temps. Et ça, on peut le voir quand on s'entraîne, hein. Ça prend du temps pour développer ça, alors qu'en force, en renforcement, on peut vite avoir des adaptations et ressentir la progression. Pourquoi ce socle d'endurance, on a besoin de temps pour créer l'adaptation ?
À mon sens, ça vient de quelle structure on va taper en premier, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu commences du renforcement musculaire, tu vas rapidement gagner en force, mais de ce que je comprends, c'est pas parce que ton muscle il s'est hypertrophié en 6 semaines. Le levier d'action primaire sur la phase initiale d'adaptation à la force, c'est le système nerveux. Et c'est ta capacité à créer un influx nerveux qui est important et donc à aller recruter, utiliser une quantité de masse musculaire plus importante qui donc te permet d'exprimer une force qui est plus élevée. Et c'est intéressant parce que si je regarde la temporalité des adaptations en endurance que j'ai pu voir sur différents athlètes, sur différents protocoles, etc., le paramètre qui change le plus rapidement, c'est le paramètre nerveux. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà mis, par exemple, des crossfitters qui faisaient beaucoup d'intensité, très certainement un petit peu trop pour eux et leur niveau à ce moment-là, trop dans le sens pas où ils ne pouvaient pas le faire, c'est juste qu'ils en faisaient tellement, mais ils n'avaient pas la base pour vraiment bien en récupérer. Et donc, tu mets ce genre de profil sur du travail de basse intensité et en 2 semaines, ils te disent « Sean, je récupère mieux, je dors mieux, je suis de meilleure humeur. » Et ça, ce n'est pas parce qu'on a doublé leur quantité de mitochondries dans leurs muscles. C'est parce que leur système nerveux, il s'est adapté et potentiellement, on est allé titiller cette branche parasympathique qui est tellement importante et qui vient en gros créer cet équilibre avec la branche orthosympathique. Orthosympathique qui est vraiment le combat, la fuite, l'activation nerveuse, hein, c'est le stress littéralement, la réponse au stress. Et si tu es tout le temps dans cette branche-là, y a des chances que l'autre va te manquer. Donc si tu vas un petit peu plus du côté para avec cette basse intensité, on va avoir un rééquilibrage de ce système nerveux, si on j'ose même utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, j'ai vu des adaptations, des changements en 2 semaines, alors que encore une fois, c'est pas sa VO2 qui a changé en 2 semaines, c'est pas ses muscles. Donc, à mon avis, c'est pas forcément que les adaptations en endurance prennent plus de temps que les adaptations en force. C'est juste qu'on n'est pas sur le même levier primaire et que le système nerveux en force est tellement plus important ou a un effet démesuré dans les premières semaines, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on progresse plus vite. Mais encore une fois, je pense que si tu biopsies le muscle ou tu fais des mesures à ce niveau-là, on n'a pas forcément un changement très très rapide au niveau musculaire.
Oui, on pourrait faire l'analogie entraînement musculaire et cardiovasculaire et reprendre le volume et l'intensité. Si on fait du cardiovasculaire et qu'on vient s'entraîner uniquement en intensité, peut-être qu'on va avoir des adaptations très rapides et puis un plateau. Et en fait, ce volume en zone 2 qu'on va pouvoir aborder dans une prochaine capsule, ça prend du temps. Et augmenter notre masse musculaire, faire du volume aussi à la muscu, changer notre esthétique et notre volume musculaire aussi, peut-être que se créer une armure. On aime bien dire ça sur 1000%. On veut tous une grosse armure sur 1000%.
Oui.
Et oui, voilà, et les auditeurs aussi, 1000%, allez-y, faites-vous une armure, on veut être solide. Et ça prend du temps, ça.
Ça prend du temps, et je veux dire, tout prend du temps. Toute bonne chose prend du temps. La patience est la mère de toutes les vertus, comme on dit. Et je pense que c'est d'autant plus vrai à l'entraînement. Il faut voir sur le long terme. C'est pour ça que j'essaie de toujours recentrer sur il n'y a pas d'entraînement magique, il n'y a pas de meilleur entraînement qu'un autre. Le meilleur entraînement, c'est celui que tu vas faire aujourd'hui, demain, la semaine prochaine et pour le reste de ta vie, de manière à pouvoir continuer à progresser. Et c'est pour ça aussi que quand tu commences à coacher, tu es super intéressé par toutes les compétences techniques, connaître les pourcentages de 1RM, comprendre les zones et les seuils. Mais au final, tu te rends assez vite compte que pour coacher des gens, il faut créer des habitudes et il faut les ancrer et il faut se créer des stratégies pour avoir du succès jour après jour, entraînement après entraînement, pour qu'on crée cette motivation intrinsèque, qu'on la développe, qui va forcément être aidée et assistée par une certaine discipline de vie et certains choix qu'on va faire. Et au final, le combat, il est là. Le combat, il n'est pas sur quel est le meilleur entraînement pour X, Y ou Z. Le combat, il est sur comment je fais en sorte que Thérèse, elle continue à faire ses entraînements que je lui donne tous les jours, toute la semaine. Et à mon avis, c'est là qu'il faut avoir la conversation.
Là, on va rentrer dans le vif du sujet pour finir. C'est quoi la stratégie de développement de notre VO2 Max? Est-ce qu'il y a une limite? Qu'est-ce que tu vois en termes de fréquence, type d'exercice? On a bien compris que le meilleur entraînement, c'était celui qu'on n'avait pas fait. On a le droit d'avoir un socle un petit peu réfléchi et puis après, venir taper de temps en temps là où on vient le moins souvent.
Alors, je vais commencer avec un cas très concret qui va, je pense, être utile pour la majorité des gens. Et je vais prendre le contexte du vélo. Pourquoi le vélo? Parce qu'on enlève les considérations de charge structurelle qu'impose la course à pied. Ce que je veux dire, c'est que bah là, je rentre de mon footing fractionné, parce que je reprends la course à pied après plusieurs années sans avoir couru. Et donc, même si métaboliquement, je suis en forme, mes petits tibias, ils vont pas trop apprécier si je leur mets 40 minutes de course non-stop, même si je reste en zone 2, même si je fais de la basse intensité, parce qu'ils sont simplement pas accoutumés à cette charge encore. Donc, je fais une minute de course, je fais une minute de marche, je répète ça plusieurs fois, je fais en sorte que ce soit pas trop et que je puisse me réentraîner une deuxième fois dans la semaine. Donc, pour enlever ces considérations de charge structurelle, on parle du vélo parce que, à peu de choses près, tant que tu as envie de faire l'effort, tu peux aller faire de la haute intensité, même en tant que débutant. Et tant que tu ne vas pas te dégoûter de cet entraînement. Donc, pour un débutant, moi, je partirais sur un entraînement assez équilibré sur la semaine. Je parlerais d'une distribution uniforme, c'est-à-dire que tu as de la basse intensité, de la moyenne intensité et de la haute intensité. Concrètement, si je prends du vélo, peut-être que je vais faire une séance, une heure à basse intensité, une heure de zone 2. Peut-être que je vais faire une séance de fractionné, par exemple 2 fois 8 fois 30-30, avec peut-être 3-4 minutes entre les blocs de 30-30. Et une troisième séance où je vais faire plutôt soit du tempo, soit du seuil, quelque chose de soutenu mais soutenable et qui va peut-être être, par exemple, 3 fois 6 minutes ou 3 fois 8 minutes, un RPE de 6, maximum 7. Donc là, on a 3 séances dans la semaine où on va aller en gros cocher 3 des grandes cases d'intensité, la basse, la moyenne et la haute intensité. Après, pour ceux qui aiment bien se challenger, on peut aller taper quelques sprints pour aller chercher la très haute intensité. Là, encore une fois, sur un vélo, c'est assez sécure. On peut le faire sans souci, contrairement à la course où là, encore une fois, au niveau structurel, il faut pouvoir assumer un sprint en course à pied. Ce n'est pas donné à tout le monde, même si, à mon avis, tout le monde devrait y tendre parce que ça te permet de t'exprimer de manière maximale et c'est super intéressant pour plein de raisons. Et donc, si on fait ça, déjà, on a une bonne base. Après, comment optimiser pour aller vers plus et une meilleure VO2 max? Ben, on a le levier de changer le type d'entraînement qu'on fait. Si on reste sur 3 séances semaine, et ben, peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir basculer 2 séances sur de la haute intensité et une seule séance à basse intensité. Okay, et ça va fonctionner un petit moment, mais peut-être qu'à un moment donné, tu sens que ça va serrer parce que tu n'arrives pas à bien récupérer de ces 2 grosses séances de haute intensité. Donc, à ce moment-là, on peut basculer sur 2 séances faciles et une séance difficile. Ou même mieux, on coupe la poire en 2 et en semaine A, tu vas faire 2 faciles, une difficile. Et en semaine B, tu vas faire une facile, 2 difficiles. Et tu vas alterner tout simplement. Donc en gros, trouver le bon équilibre pour avoir une distribution qui soit cohérente et dont tu peux récupérer. Et si tu fais ça pendant 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines, tu vas voir de jolis progrès sur ce que tu fais. Forcément, on peut augmenter un petit peu le volume des séances au fur et à mesure. Donc, ta séance d'une heure en fondamental, elle peut passer à 1h10, elle peut passer à 1h30. Peut-être que de temps en temps, tu sors le week-end, tu vas faire 2h ou 3h avec les copains. Et tes séances de fractionné, peut-être que tu avais commencé avec 2 fois 8 fois 30-30. On peut passer à 3 fois 8 fois 30-30. On peut faire même 3 fois 8 fois 40-20. On peut évoluer sur les formats. On peut passer sur…
Faire.
On peut tout faire, c'est littéralement le truc. Après, c'est toujours le maître mot, c'est la progressivité. Et la progressivité, encore une fois, pas dans cette optique de maximisation, mais dans cette optique d'accumulation de travail de qualité dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne veut pas tout de suite aller au rupteur et se mettre complètement en travers sur un format de séance qui est nouveau. Moi, je préfère commencer 2-3 pas en retrait, me dire, je pourrais faire 3 fois 15 fois 30-30 aujourd'hui. Mais peut-être que je peux commencer à 2 fois 8 fois 30-30 et ensuite progresser 2 fois 10 fois, 2 fois 12 fois, 3 fois 8 fois, 3 fois 10 fois. Et déjà, sur quelques semaines, j'ai fait 5, 6, 10 séances de qualité. Et c'est là où on va vraiment voir les progrès plutôt que sur une grosse séance magique qu'on va faire.
Donc, c'est de la fréquence. Tu veux 3 séances globalement. Et après, on joue avec les modalités, basse intensité, moyenne intensité, haute intensité. On peut jouer un petit peu avec les curseurs. Mais c'est le temps de maintien et la capacité de travail. Je t'ai entendu sur un autre podcast dire que la VO2 max, plus vous allez être régulier dans cet entraînement, plus la VO2 max va vous permettre une capacité de travail. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir rajouter un entraînement. Là, vous étiez sur 3, mais peut-être à partir de 4 semaines, vous allez pouvoir mettre un 4e, un 5e. Vous allez pouvoir faire des séances plus longues. C'est plus vous allez augmenter votre VO2 max, plus vous allez avoir une meilleure capacité cardiovasculaire, mais aussi une meilleure capacité à endurer, à accepter en fait cette charge de travail.
C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que tu vois naturellement aussi les élites en endurance qui ont des distributions d'intensité qui sont extrêmement biaisées vers la basse intensité. Donc, il y a une proportion énorme de volume à basse intensité qu'ils effectuent par rapport à d'autres niveaux d'intensité, moyenne, haute ou très haute. C'est simplement parce qu'ils ont un tel moteur qu'ils sont capables d'aller chercher tellement loin sur leur séance de VO2 que forcément, ils ne peuvent pas en tolérer 3 dans la semaine ou 4 dans la semaine. Parce que, prends un cas très très concret. Quelqu'un qui débute l'activité physique. Si je lui donnais une séance de VO2, peut-être que la personne arriverait à faire, je ne sais pas, 3 fois 2 minutes avec 1 minute de repos ou 2 minutes de repos. Honnêtement, pour quelqu'un qui est sédentaire, qui s'entraîne rarement ou qui commence à s'entraîner, ça fait 6 minutes en zone, hein, si on parle comme ça. 3 fois 2 minutes, ça fait déjà un bon effort. Et c'est des efforts que des sédentaires vont avoir de la peine à tolérer. Mais tu regardes les pros, ils vont pouvoir faire un 5 fois 5 minutes, 4 fois 8 minutes à des intensités de type VO2. Donc, ce n'est même pas le même monde, ce n'est même pas le même univers. On parle de 4, 5, voire 6 fois la capacité de travail sur ce genre d'intensité. Donc, forcément, quand tu vas t'envoyer un 5 fois 5 à haute intensité, eh ben, tu ne vas pas le faire 5 fois dans la semaine. Et donc, il y a cette... je dirais ce glissement, si tu veux, avec le niveau du pratiquant et avec l'âge d'entraînement en endurance du pratiquant, où on peut dire que plus ton niveau est élevé, plus ton âge d'entraînement est élevé et plus la proportion de basse intensité va être considérable et nécessaire pour pouvoir assumer justement alors la charge d'entraînement de manière générale et aussi le genre de cartouches qui peuvent se mettre.
Oui. Et plus on prend de l'âge, moins on va vite, moins on est intense, plus on est sage. Voilà, on cherche d'autres capacités, tu vois. Mais ce que je voudrais te dire, c'est, tu vois, comment tu envisages en fait cette VO2 max dans ses limites ? Parce que là, on a bien compris la stratégie de développement de notre VO2 max, et puis là, on parle de l'âge. Mais il y a une limite aussi à cet entraînement. Comment tu envisages tout ça ?
La limite, elle est surtout par rapport au temps que tu peux y dédier. Il y a des limites physiologiques absolues. On le voit chez les pros aujourd'hui. On parle de 95, 100 points de VO2. Donc, on est sur des chiffres qui sont stratosphériques, comme dirait mon frère Ken, mon ami Ken.
T'as plein d'amis, quoi.
J'ai pas mal d'amis, ouais. J'ai quelques très bons amis, dont Vincent, Ken et d'autres font partie. Et que je salue d'ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est que 100 millilitres par kilo par minute, c'est des chiffres qu'on voit. chez les Norvégiens en triathlon, Pogacar, etc. Et on parle littéralement d'une valeur qui est le double de quelqu'un qui serait déjà bien en forme au niveau de l'endurance. Si tu as une VO2 à 50, c'est déjà solide. Okay, c'est déjà solide. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut toujours faire mieux. On peut aller chercher 60, on peut aller chercher 65. Mais 50, c'est déjà vachement solide, okay, pour la majeure partie de la population. Et donc là, on parle d'une valeur qui est le double, littéralement le double, ce qui est absolument astronomique. Donc, il y a un plafond. Il y a un plafond, forcément. Mais est-ce que le plafond, il est au niveau de l'adaptation? Est-ce que le plafond, il est au niveau de notre capacité à ingérer assez de calories par rapport à un certain volume d'entraînement? Est-ce que le plafond, il est par rapport à un volume d'entraînement qu'on peut assumer dans la semaine et dont on peut récupérer de manière durable afin d'aller chercher de telles valeurs? Donc, à mon avis, le plafond, il ne faut pas trop le considérer, en tout cas pas pour le commun des mortels. Pour ces gens-là, on est dans une autre dimension. Mais pour le commun des mortels, ce qu'il faut voir, c'est voilà, qu'est-ce que je peux faire avec le temps que j'ai et comment est-ce que je peux progressivement, avec les années, idéalement, dédier un petit peu plus de temps à mon entraînement si je veux continuer à faire bouger ces valeurs vers le haut.
Là, ça me fait réfléchir l'entraînement dans sa globalité. Là, on a vu comment on peut mettre une stratégie pour développer. Mais est-ce que je mets un focus, je me donne 2 ans, où je développe ma VO2 max et je vais chercher ma limite. Je vais le plus haut possible. Ce que je veux dire, c'est est-ce que je mets un extra focus pour aller toucher mon plafond et après, j'essaie de maintenir, ou au contraire, j'essaie de suivre la stratégie de développement qu'on s'est dit et de la tenir dans le long terme, à la fois dans une visée de performance et de longévité. C'est quoi le plus intéressant là?
La réponse, c'est oui. Et la stratégie, c'est deux pas en avant, un pas en arrière. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas juste te focaliser sur un truc et faire que ça pendant 2 ans. Alors, tu peux, mais à mon avis, tu auras des retours qui seront pas aussi intéressants que si tu séquences cette approche avec différentes phases. Et dans chaque phase, tu as un focus différent. Donc, par exemple, tu peux te dire là, pendant 2 mois ou 3 mois, je vais vraiment mettre le focus sur l'endurance, je vais mettre le travail de force en maintenance. OK. Est-ce qu'on peut faire ça pendant 6 mois? Oui, tu peux faire ça pendant 6 mois. Est-ce qu'on peut faire ça pendant 12 mois? Oui, tu peux faire ça pendant 12 mois. Mais à mon sens, tu auras de meilleurs résultats sur le long terme si tu fais, par exemple, 4 mois d'endurance avec peut-être 1 mois ou 2 mois sur du travail de VO2 pur. 2 mois ou 3 mois sur plutôt du travail à moyenne intensité, développement du seuil, etc., d'autres qualités d'endurance. Les 2 mois qui suivent, on va plutôt faire du travail de renfo. En tout cas, on va axer sur le renfo, tenter de maintenir la majorité de ce qu'on a développé en endurance, mais repasser un palier sur le travail de force pour ensuite rebasculer sur une même phase ou une phase un petit peu différente avec plutôt de l'endurance en focus et de la force qui viendra quelques mois plus tard. Ça, ce serait, on va dire, une programmation générale qui est biaisée vers l'endurance. On pourrait tout à fait la biaiser dans l'autre sens aussi. Si quelqu'un vient d'un sport d'endurance et a besoin de force, bah peut-être que tu vas passer 8 mois de l'année à plutôt être biaisé sur la force et à maintenir ton endurance et à pouvoir monter le curseur sur l'endurance pendant 4 mois.
Est-ce qu'on voit cette VO2 max qui va chuter avec le temps? Alors là, nos capacités physiques et cognitives, émotionnelles, mon cher Sean, sont vouées à diminuer. C'est pas très grave, c'est la vie. Mm-hmm. Et est-ce que j'essaye d'amener le curseur et d'aller avoir ma limite maximale en VO2 max pour après limiter la diminution qui m'attend? Ou c'est vraiment un maintien constant? Si tu vois ce que je veux dire.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et là, encore une fois, à mon avis, alors si certains sont drivés par ce focus-là, et si tu as besoin de te dire que je vais chercher mon max de VO2 et après je vais tenter de le maintenir dans le temps, et que c'est comme ça que tu veux fonctionner au niveau de ta démarche psychologique, eh ben go. Si ça te motive, vas-y. Mais à mon avis, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire avec l'entraînement. Et on peut arriver à ce même résultat de manière indirecte sans se dire où est mon max, où est ma courbe, est-ce que ça décroît, est-ce que ça reste en plateau. Là, par exemple, j'avais des problèmes qui m'ont empêché de m'entraîner de manière libre, on va dire, ces dernières années. Je retrouve un niveau de forme et une capacité à faire plus ou moins ce que j'ai envie de faire. Et là, tout ce que je veux, c'est prendre du plaisir à m'entraîner. Donc là, je suis allé faire un fractionné footing en course à pied, pas de la VMA. J'ai littéralement fait du jogging pendant une minute et j'ai marché pendant une minute et j'ai fait ça quelques fois. Hier, je me suis mis un petit peu en travers sur le ski erg, j'ai fait 5K et j'ai bien poussé à la fin. Le jour d'avant, j'ai fait un peu de zone 2 sur le vélo. Avant ça, j'ai pris un jour de repos. Le jour avant ça, j'ai fait une séance de renfort avec ma femme. Et mon but, ce n'est pas de maximiser ma VO2 maintenant parce que je sais que de par les études, c'est le plus important. Je vais y arriver à la VO2. Je ne me fais pas de soucis. Pour l'instant, je veux un socle d'entraînement qui est solide. Je veux une régularité dans mon activité physique. Je veux un plaisir de l'entraînement qui fait que quand je vais aller me mettre en travers sur une séance de VO2, je vais savoir pourquoi je l'ai fait et je vais avoir envie de le refaire ensuite.
Et tu as le socle pour emmagasiner en fait et ressortir vivant de cet entraînement.
C'est exactement.
Vrai que, tu vois, je faisais la réflexion là avec mon collègue, j'avais 50% de maux de dos au début de ma carrière en kiné. Mmh. Et là, je pense que j'ai 50% de coureurs. Mmh. Y a vraiment un boom sur la course à pied et tous les sports d'endurance. Hein, tu vois, il y a beaucoup d'ultra, il y a beaucoup d'extrêmes. Et les gens ne se laissent pas la place à emmagasiner de l'expérience, de l'adaptation pour aller chercher des performances. Je vois beaucoup de personnes qui n'ont jamais couru et qui ont un bloc de 4 mois de préparation pour aller courir. Non, mais c'est fou, hein.
Ouais,
c'est limite, c'est pas de leur faute, en fait, parce que ils ont pas la notion de ce temps pour créer des adaptations. Et ça reprend ce que tu dis. Tu prends extrêmement ton temps tu as envie que dans 3 ans, l'entraînement que tu as décidé de faire dans 3 ans, eh ben, tu vas le faire. Tu vas en ressortir avec des adaptations sans lésion. C'est beau.
Ouais, et pas pour conclure, mais pour faire une petite synthèse de ma vision actuelle.
On peut conclure, mon cher Shannon.
Allons-y gaiement. Alors, pour moi, la VO2, c'est une conséquence de l'entraînement. Ça doit pas être un objectif en soi. Ça peut être un objectif sur une phase de ton entraînement, mais ça devrait pas être le seul truc auquel tu penses quand tu t'entraînes. Faut que je maximise ma VO2, faut que je maximise ma VO2, faut que je maximise ma VO2. Il y a tellement d'autres choses à développer. Et encore une fois, avoir une approche globale, variée, équilibrée de l'entraînement, qui certes peut mener vers des perfs, et que tu devrais tendre vers la perf si tu aimes faire ça, et si tu aimes te challenger, et si tu aimes faire de nouvelles choses, mais encore une fois, de manière durable, et sans te mettre dans le viseur qu'il faut absolument que je booste ma VO2 avant tel âge, parce que sinon. Si tu t'entraînes de manière saine, de manière équilibrée, Et je pense qu'on sous-estime aujourd'hui l'importance du plaisir qu'on prend à faire quelque chose et notamment à s'entraîner. Parce que c'est ça qui va faire qu'à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, tu veux encore le faire. Et je pense si je devais prédire quelque chose, c'est que dans les années à venir, on va commencer à plus parler de ce facteur durabilité de l'entraînement, durabilité de la motivation à l'entraînement et le fait de vouloir continuer à le faire pour toujours plutôt que de vouloir maximiser certaines adaptations à un instant T parce qu'au final, c'est ça qui compte. Et après, forcément, l'entraînement, c'est une petite part des choses. Si tu approches l'entraînement de manière neurotique et tout le temps hyper focus sur un truc, tu te mets tout le temps dans le mal parce qu'on t'a dit que c'est ça qu'il fallait faire et que tu prends pas de plaisir et que t'es misérable en dehors et puis que tu négliges ta vie sociale et tu vois pas tes parents et tu vois pas ta famille et tes amis à cause de l'entraînement parce que tu t'es dit qu'il fallait s'entraîner tant d'heures donc je vais m'entraîner tant d'heures. Je parle pas des gens qui sont professionnels ou qui tendent vers la professionnalisation dans le sport où tu dois faire des sacrifices forcément, mais autrement faut vivre un petit peu, faut prendre du plaisir. Et je pense que l'aspect social, il est tout aussi important, à mon avis, que l'aspect physique. Et encore une fois, je suis pas dans une démarche d'opposition. Je suis dans une démarche de venir apporter ces choses en même temps et de dire, on peut prendre du plaisir à l'entraînement, on peut s'entraîner dur, on peut s'entraîner de manière intelligente et on peut aussi passer du temps en famille. Je veux dire, j'ai bu des coups avec mon frère quand il est venu à Noël, parce que je le vois pas très souvent et parce que c'était Noël. Mais j'ai pas bu grand chose depuis et avant ça j'avais pas bu grand chose non plus. Mais on s'est fait péter la panse pendant 2 jours parce que c'était le moment des fêtes.
C'est la qualité, mais c'est ça. On vieillit aussi, on voit la vie différemment. Là, il y a un truc qui me vient. C'est là, tu m'as dit, tu vas faire ton entraînement à VO2 max. Tu l'as déjà en tête, cet entraînement-là que tu veux faire, là, ton objectif, là, ça fait longtemps que tu as... C'est quoi l'entraînement VO2 max de Sean? T'es celui que tu veux là, celui que t'es l'objectif là.
Là, je regarde le skieur là qui est au fond de la salle. Et hier, je te dis, j'ai fait un 5K, j'étais assez content. Ça fait un effort de 20, 21 minutes à peu près. J'avais un bon, voire très bon niveau sur le rameur à l'époque, il y a quelques années en arrière. Et le rameur, j'ai donné, et je ne sais pas si je vais pouvoir remonter dessus un jour et vraiment faire des entraînements difficiles parce que je me suis vraiment, vraiment mis mal sur cette machine. Alors, ça a très bien fonctionné, hein. Comme je l'ai dit, la haute intensité, ça fonctionne très bien, surtout quand tu démarres. Et pour moi, ça a très bien fonctionné parce que je faisais que ça et j'ai bien perfé dessus, mais pas de manière durable. Et aujourd'hui, je regarde le skierg et ça me titille. Je pense que un entraînement assez typique pour le skierg ou pour ces machines-là en général. Si je vise quelque chose de plus court comme un 2000 mètres, ce sera peut-être un 8 ou 10 fois 500 mètres avec 1 à 2 minutes de repos. En gros, ça fait du 2 on, 2 off à peu de choses près, ou alors du 2 on, 1 off. Et si je vise quelque chose comme un 5K plutôt, ce pourquoi je serais plutôt prédisposé, c'est un petit peu plus long. Parce que j'ai pas, par exemple, sur le rameur, je n'avais pas la puissance des plus gros et des plus lourds pour aller taper des énormes temps sur un 1000 mètres. Par contre, sur un 5000, 10000, là, j'étais vraiment solide. Et donc, je pense que sur le skierg, je vais m'orienter un petit peu pareil. Pour un entraînement typé 5000 mètres sur le skierg, il y a le 3 x 2000 qui est assez classique. Donc, on parle de 3 x 8 minutes. C'est une grosse séance de seuil, quoi.
Si tu te rends compte à quel point tu regardes ce skierg de 3 quarts, donc il y a vraiment il y a une relation.
Il y a quelque chose. Mais tu vois, c'est une relation.
Il y a aussi une envie d'en découdre. Hein. C'est wow.
Mais c'est une relation que j'approche tranquillement. Je prends mon temps parce que je sais que sinon je vais me faire du mal et après je vais plus vouloir le faire.
Mais lui il bougera pas là. Il te regarde lui.
Lui va pas bouger et même quand j'essaie de lui en foutre dans la gueule, il va toujours pas bouger. Lui il s'en fout. Donc. Ouais, j'ai quand même cette petite pièce dans ma tête parce que j'ai toujours été un compétiteur. J'ai pas pu l'être pendant des années, mais ça change pas qui je suis. Et le sport, c'est un de mes moyens d'expression préférés. Et c'est vrai que le skierg, c'est quelque chose que j'aime beaucoup maintenant. Je veux dire, reprendre la course à pied, pour moi, c'est. Oui. Je viens du rugby à la base.
Tu regardes ton skier quand tu reprends la course à pied.
Je viens du rugby à la base. J'étais une fusée quand j'étais sur le terrain. J'adore courir. Donc, le fait de pouvoir courir à nouveau, le fait de pouvoir sortir courir avec mon fils, le fait de pouvoir sortir faire du vélo avec lui. Enfin, il y a plein de choses qui m'animent. Mais vraiment, pour moi, c'est une approche qui est durable dans le sport, qui fait que j'ai envie de continuer à m'entraîner, qui fait que je suis capable de travailler, passer du temps avec ma famille et prendre du plaisir à l'entraînement. Alors, comme tu l'as dit, c'est peut-être les années aussi et l'âge qui font que je suis un peu plus raisonné sur ces choses-là, mais pour moi aujourd'hui, c'est ce qui m'importe. Mais il y a des grosses séances de VO2 qui vont arriver, mais je me donne le temps d'y arriver parce que je sais à quel point ça va faire mal quand ça va arriver et je vais le faire en toute connaissance de cause et en capacité de le faire surtout.
C'est magnifique. Bon, on est peut-être un petit peu moins solide, un petit peu moins une fusée qu'avant, mais on a toujours l'amour de l'entraînement et de se sentir bien, quoi.
C'est ça.
Juste une dernière petite question. On va recevoir Véronique Billa sur la VO2 Max. Donc, c'est apparemment, c'est la queen. Moi, je la connais pas très bien, mais Alexandre 2000% nous en a vanté les mérites. Donc, je vais me renseigner. Et elle dit que la VO2 Max, on peut la tenir 40 minutes. Moi, de ce que j'ai écouté de toi, c'est que ce serait une autre capacité. Ce serait pas la VO2 max en elle-même, mais plutôt le maintien de cette VO2 max. Si je me trompe pas. Tu disais qu'il y avait, qu'on pouvait développer la VO2 max, qui est une base, un paramètre. Et après, ce qui va définir, en fait, un athlète à 60, deux athlètes à 60, c'est qu'il y en a un qui va pouvoir maintenir un effort à une certaine VO2 max et c'est là où il va avoir ce maintien de VO2 max qui va faire la différence.
Alors, ce que je comprends quand Véronique dit ça, parce que je l'ai pas entendu dire directement et je l'ai pas lu non plus, donc c'est forcément, faut le prendre avec des pincettes ce que je dis là. Ce que je comprends quand elle dit qu'on peut tenir VO2 max pendant 40 minutes, moi, je comprends qu'on peut passer 40 minutes dans le domaine sévère, c'est-à-dire au-delà du deuxième seuil. Je peux courir 40 minutes ou plus, hein, parce que les personnes les plus développées en endurance, on pense aux triathlètes longue distance et aux cyclistes, leur deuxième seuil, ils peuvent le tenir une heure et quart. Donc, 30-40 minutes pour le commun des mortels, c'est déjà pas mal. Et donc, je peux, quand je fais un effort dit de haute intensité, je peux le tenir pendant 30-40 minutes. Ça, pour moi, c'est cohérent. Après, dire que tu mesures VO2 max sur, par exemple, un test triangulaire, donc tu fais un test par palier qui monte rapidement pour atteindre la consommation maximale d'oxygène, c'est comme ça qu'on va le mesurer typiquement. Et après, tu me dis, je ne sais pas, tu as 53 de VO2, et ensuite, deux ou trois jours plus tard, après t'être reposé, tu vas faire une séance de 40 minutes où tu vas tenir 53 pendant 40 minutes. Moi, je ne l'ai jamais vu. Et pour moi, ça n'a pas de sens parce que tu vas pas être en mesure de tenir ta VO2 max ou ton VO2 max pendant 40 minutes. Tu vas pouvoir passer 40 minutes dans la zone qu'on appelle VO2 max, au-delà du deuxième seuil, zone 5, VO2 max, haute intensité, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais ce ne sera pas en utilisant ton maximum d'oxygène durant ces 40 minutes. Après, peut-être je me trompe, c'est elle qui a fait les études. Si elle peut le montrer, si elle l'a mesuré, je suis tout ouïe.
Et puis peut-être on s'est planté aussi. Hein, donc voilà, sur les commentaires, allez-y. Hein, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre de la nuance dans les commentaires. Mettez un peu d'amour, mettez des étoiles.
Beaucoup d'amour, surtout ouais. De l'amour. On manque d'amour aujourd'hui dans le monde. Voilà.
Dites-nous que vous avez kiffé. Là, je vois que j'ai manqué une partie aussi. Vous voyez, il y a un peu d'aléa du direct. Si on ne peut pas parler de VO2 max sans parler d'évaluation, comment je fais pour évaluer cette VO2 max? Quels sont les moyens les plus simples, tu vois, pour les auditeurs de 1000%
Si tu es en mesure de faire un effort de haute intensité, tu vas faire soit un Cooper, soit un demi-Cooper, donc un test de 12 minutes ou un test de 6 minutes en course à pied, ou alors tu fais un test d'IPMA en vélo sur un 5 minutes à fond. Et il y a des calculateurs en ligne où tu rentres ton résultat et ça va te calculer ta VO2 max. Alors, ce n'est pas mesuré, c'est un calcul. Tout comme ta montre te fait un calcul par rapport à tes valeurs d'entraînement. Donc, on est sur de l'ordre de l'estimation. Si tu veux mesurer la VO2, il faut avoir un truc sur le nez, un masque qui va mesurer la quantité d'oxygène qui rentre, la quantité d'oxygène qui ressort et la quantité de CO2 que tu expires également, qui mesure ta ventilation et qui fait un gros calcul savant pour savoir combien d'oxygène concrètement tu as extrait et utilisé dans la minute. Ça, c'est le moyen de le mesurer. Mais à mon avis, si tu t'entraînes de manière régulière et que tu as un entraînement qui est équilibré, c'est-à-dire que tu ne fais pas que de la basse intensité ou que de la haute intensité, les valeurs que te donne ta montre seront assez proches de la vérité. Et tu pourras le voir d'ailleurs, si tu bascules d'une phase où tu fais un petit peu tout à une phase où tu fais que de la base, ça va te faire descendre ta VO2 simplement parce que, encore une fois, c'est des calculs sur la base d'énormes bases de données que Garmin et autres ont accumulées et accumulent au quotidien sur tous tes entraînements. Et donc, c'est des algorithmes, c'est des calculs, ce n'est pas des mesures. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Après, honnêtement, je pense que tu peux t'en sortir sans aller le mesurer en labo. Et je dis ça, même si ça fait partie de mon métier et c'est un service que je propose de faire des tests. Mais je dirais que le chiffre du VO2 que tu as, c'est presque le truc le moins intéressant d'un test, en fait. Enfin, pour moi, c'est cool, tu as 50, cool, tu as 55, cool, tu as 60, mais ça ne te dit pas ce qu'il faut faire ensuite, en fait. La VO2, elle n'est pas prescriptive, elle ne te dit pas quel entraînement il faut pour continuer à la développer. Ça va te dire où tu es, ça va tracer une ligne dans le sable et ça fait que si tu fais le même test avec le même matériel dans les mêmes conditions dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, tu peux comparer l'évolution de ta consommation maximale d'oxygène. Mais entre les deux, ce chiffre, il ne te dira rien sur ce que tu dois faire. Et donc, c'est là qu'une approche globale et cohérente de l'entraînement, l'évaluation des besoins, prendre le contexte de la personne, ce qu'elle a fait, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle n'aime pas faire, ce qu'elle a besoin de faire, ses objectifs compétitif s'il y en a, et faire son travail de coach et planifier un entraînement régulier, c'est là la solution.
Sean, tu me régales quand tu parles, là il y a tout, tu te rends pas compte la phrase que tu viens de nous sortir, il y a vraiment tout. Moi j'ai fait une prise de mesure en labo, et c'est vrai que la VO2 max, bon, elle était un peu éclatée, je m'attendais à mieux, mais j'ai découvert mes seuils, j'ai découvert ma proportion à pouvoir changer mon entraînement, même si je le savais au fond de moi. En tout cas, ça, mais c'est vrai, je le savais au fond de moi. Donc,
ça, des fois, d'avoir les chiffres devant les yeux, ça t'aide à raisonner, ça t'aide à dire, ok, bon, ben, si je le vois comme ça, maintenant, je vais acter dessus et je vais faire quelque chose. Et ce que tu as dit là, à mon avis, c'est super important. Et d'ailleurs, c'est une démarche que je prends de plus en plus. C'est une approche pédagogique du profilage physio, du fait de comprendre comment ton corps fonctionne, de faire le lien entre ce que je ressens et ce qui se passe vraiment, de déterminer ses seuils et savoir, ah ok, donc quand je passe de 13 km/h à 14 km/h, c'est pour ça qu'il y a un gros changement dans mon ressenti. C'est parce que j'ai basculé depuis en dessous jusqu'en dessus du deuxième seuil. Et peut-être que l'utilité du profilage, elle est encore plus élevée sur cette part pédagogique, et le fait de savoir s'écouter, de savoir faire le lien entre le ressenti et la physiologie, de comprendre comment ton corps fonctionne, de t'intéresser au fonctionnement. Et peut-être que ça va t'arriver encore plus pour justement choisir les bons entraînements, bien réfléchir, bien gérer tes intensités, pas aller te mettre au RPE 9 à chaque fois que tu fais du seuil parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas progresser. Et je pense qu'il y a une vraie démarche de réflexion autour de l'entraînement qui peut être alimenté par justement ce genre de pratique. Mais encore une fois, le chiffre du VO2, il va pas te dire grand-chose.
Ouais, c'est la compréhension de la science de l'entraînement. Ça, dans l'école de 1000% qu'on va créer en 2038, voilà. Il faudra que tout le monde sache pourquoi on s'entraîne, quels sont les bénéfices, les modalités d'entraînement. C'est vraiment dans l'école du futur, on est obligé de mettre cette matière.
Obligé.
Il faut que nos enfants soient plus en mouvement, mais aussi qu'ils comprennent pourquoi. Voilà, on t'invitera, bien sûr, tu seras cofondateur de cette école du kiff. Et bon, bah, c'était trop bien. On s'est régalé, franchement. Je crois qu'on a fait le tour de la VO2 Max. Vous avez compris que la VO2 Max, c'est qu'un chiffre. Le principal, c'est de prendre du plaisir. Soyez à 1000%. Essayez de comprendre un petit peu comment vous réagissez. Et on n'a pas parlé du ressenti, hein, toi qui adore l'entraînement à la sensation. C'était un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi. Mais bon, on va conclure cet épisode. C'était génial. Merci, Sean. T'es vraiment 100%. Et puis voilà, on se dit à la prochaine.
À la prochaine. Et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, hein, je reviens quand vous voulez. On peut se refaire un épisode par mois. Ça me va très bien aussi. Donc, toujours un plaisir de parler avec vous.
C'est magnifique. Mais t'es le quatrième 2000%. C'est pas possible. Bon, allez, merci à tout le monde et merci encore de votre soutien, de toutes les marques de gentillesse, les étoiles, les likes, tout ce que vos messages, allez-y. On est vraiment très très heureux de faire partie de cette aventure avec vous. Donc vous faites partie de 1000% aussi les auditeurs, et voilà, on vous remercie. Allez, salut tout le monde.
Ciao.